Bien. Alors, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont accepté de participer à cette table ronde, qui n'est pas tout à fait ronde. Alors, pourquoi cette initiative? Quel en est l'objet? Eh bien, c'est à l'occasion d'une invitation tout à fait exceptionnelle, celle de Jonathan Little, qui nous rejoindra tout à l'heure en compagnie de Julia Kristeva et du Centre Roland Barthes, que j'ai jugé qu'il serait très utile de profiter de cette venue et de profiter du recul de quelques mois pour réfléchir sur le livre de Jonathan Little, Les Bienveillantes, à distance des polémiques qui se sont développées à chaud et de l'effervescence médiatique liée à la parution du livre. Il me semblait que l'occasion était bonne pour essayer de reformuler ensemble quelques questions, pour essayer d'esquisser les lignes de force de ce qui pourrait devenir un travail de réflexion collective autour du livre. Alors, Les Bienveillantes constituent un objet d'étude étonnamment riche, passionnant, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la question n'est pas toujours là, et en particulier passionnant pour qui réfléchit sur les relations entre littérature et morale aujourd'hui. C'est du reste dans le cadre de la création d'un centre de recherche consacré à cela, un centre de recherche sur les relations entre littérature, philosophie et morale que nous venons de créer à l'École normale supérieure, que cette table ronde est organisée. Avant d'entendre Jonathan Little, de lui poser quelques questions, nous essaierons de nouer un dialogue aussi entre les points de vue, des points de vue issus de plusieurs disciplines, l'histoire, la philosophie, la littérature comparée, la littérature, la psychanalyse. Et cela non pas pour juger le livre et son auteur, ceci n'est pas un tribunal, ni pour porter au nu le livre une fois de plus. Certains ont dit qu'il s'agissait de l'événement du siècle ou du demi-siècle, mais pour s'interroger sur un aspect du livre, un seul aspect, ses effets moraux. Moraux en prenant morale au sens le plus large. En guise d'exergue à cette table ronde, je citerai un exemple important aux yeux de Little lui-même, celui de Claude Lanzmann. Lanzmann qui déplore une fascination de Little pour l'horreur. Pour lui, le livre est une vénéneuse fleur du mal. Et cela est lié, aux yeux de Lanzmann, à un déficit d'incarnation. Je cite, « Ces 900 pages torrentielles n'accèdent jamais à l'incarnation. Le livre entier demeure un décor, et la fascination de Little pour l'ordure, pour le cauchemar et le fantastique de la perversion sexuelle, irréalise son propos et son personnage, suscitant malaise, révolte. On ne sait pas contre qui et contre quoi. » D'où un problème moral lié à ce problème général. Je cite encore Lanzmann, « Le paradoxe inimaginable des bienveillantes est que la tâche de mémoire, d'intellection et de récit de la Shoah est confiée à un SS. Un SS parle donc, et non pas, les victimes ou leur porte-parole, Lanzmann lui-même ou un historien comme Hilberg. » Et face à Semprin, qui saluait lui l'événement du siècle, lors d'un débat polémique, Lanzmann s'interroge sur la vraisemblance d'un SS si cultivé, craignant que le livre ne provoque un phénomène d'empathie malsain. Un phénomène d'empathie malsain. Et je crois qu'on pourrait être tenté de faire des analogies avec la réaction naguère de Jean Cayrol, ancien déporté de Mauthausen, à la sortie en 1953 du livre « La mort est mon métier » de Robert Merle, qui était les mémoires imaginaires de Rudolf Höss, et qui constituait un scandale aux yeux de Cayrol. Scandale qui consiste, je cite, à donner un corps romanesque à ce qui n'était qu'un monstre impossible à décrire. Tentative d'autant plus coupable qu'elle multiplierait les erreurs, les invraisemblances historiques. Et Dieu sait si on a reproché cela à Little, je pense notamment à un article dans Le Monde de l'historien Peter Schuttler. Alors, deux mots reviennent régulièrement quand on parle de ce livre, le mot « événement » et le mot « fascination » dont il vient d'être question. Un événement dérangeant dans le paysage du roman français contemporain, dont on reconnaît la puissance d'ébranlement. Il ébranle toutes sortes de choses. Quelles que soient les réserves que l'on puisse avoir à l'égard du livre, je crois qu'aujourd'hui, nul ne pourra nier cette puissance-là. Mais si le livre, en bien des sens, fait événement, qu'advient-il au juste de nouveau en lui, par lui et autour de lui ? Fascination est un des mots qui reviennent aussi de manière récurrente à son propos, souvent en mauvaise part. Est-il opportun, est-il légitime de faire du monde des bourreaux et de l'extermination de masse un récit fascinant ? Pour un grand nombre de lecteurs, comme l'attestent certains témoignages, cette fascination a lieu malgré eux, en quelque sorte, résiste aux réserves morales qu'ils éprouvent par ailleurs au cours de la lecture. Lexique de la fascination qui cohabite souvent dans leur bouche de façon étrange avec celui de l'abject, du dégoût ou encore de l'extrême lassitude. Alors, dans la richesse des débats que le livre a suscité, j'ai été sensible particulièrement à l'importance des critères moraux avancés contre ou pour les bienveillantes, pour ou contre Little. Souvent sur le mode de l'affirmation pure et simple, de l'impression, de l'affect, ce livre me dégoûte. Parfois de manière construite et argumentée, ainsi, a-t-on moralement le droit de banaliser la Shoah ou de la romancer par une fiction de ce type ? Comme si faisait surtout problème non pas une série de thèses qui seraient spécifiques à Little, mais une relation problématique, suspecte, entre un référent spécifique, l'extermination des Juifs d'Europe, un point de vue, celui d'un bourreau et non pas d'une victime, et un genre oscillant entre deux registres, notamment la fiction romanesque relevant du monument littéraire et l'histoire relevant, elle, du document, pour reprendre la bipartition de Foucault. Relation ayant pour effet de reverser le discours sur la Shoah dans un espace nouveau, dans un espace qui n'est pas ordinairement le sien, de le profaner en quelque sorte. Alors, il me semble qu'il y a un certain étonnement aujourd'hui à voir ressurgir massivement de très vieux critères de jugement moral qui me sont familiers à moi, qui suis plutôt 17e-iste, mais que je ne pensais pas aussi puissamment actifs aujourd'hui, de très vieux critères de jugement moral à l'occasion de ce livre. Contestation cognitive des droits de la fiction et plus largement de la littérature au nom du vraisemblable et de la vérité. Contestation morale de la puissance de la fiction littéraire au nom des effets pervers qu'elle peut avoir, et elle en a eu. Bien malheureusement, des publications et des sites que je qualifierais de nauséabonds l'attestent. Or, tout lecteur des bienveillantes qui s'est laissé emporter par le mouvement du livre, au-delà de ses premières préventions et répulsions, peut avoir l'impression d'avoir une sorte de trou dans la tête, comme le narrateur Maximilien Hau, après la bataille de Leningrad, et d'osciller, grâce au livre, porté par lui, entre d'une part une sorte d'hyperlucidité, c'est-à-dire un troisième œil, qui lui fait voir plus qu'il ne voyait auparavant, et pas seulement comprendre, d'une part, et d'autre part, une obscurité visqueuse, onirique, cauchemardesque, qui confine au délire et au rêve. Et donc le lecteur ne cesse d'osciller. D'où la tentation de rêver ensemble à ce que pourrait être un dernier chapitre de La littérature et le mal, où le fantôme de Georges Bataille viendrait entrer les bienveillantes, commenter ses excès, ses risques, ses dangers. Alors, je voudrais poser aux participants, à chacun des interlocuteurs réunis derrière cette table, deux questions. Une question générale, dans quelle mesure ce livre fait-il moralement problème ? En ses contenus, sur des aspects comme la responsabilité des bourreaux, ou encore la banalité du mal, mais aussi en sa forme, responsabilité de la forme romanesque devant l'histoire et la mémoire. Et en ses effets, possibilité d'empathie avec le bourreau, effet d'un usage de la première personne, d'argumentations multiples qui peuvent séduire parmi les nazis, etc. À cette question générale, dans quelle mesure ce livre fait-il moralement problème, J'aimerais poser à chacun des intervenants aussi une question plus personnelle, touchant à la notion d'expérience qui est si souvent invoquée par les lecteurs de ce livre de manière confuse, ambiguë, voire contradictoire, selon les lieux du livre qu'ils évoquent. Comment caractériser le type d'expérience morale liée à la lecture d'un tel livre ? Donc, je cède la parole à chacun des intervenants et peut-être que nous procéderons de droite à gauche, en commençant donc par vous. Alors, je demanderai à chaque intervenant de se présenter très brièvement.
Donc, je suis Valérie Gérard et je suis à Terre au département de philosophie de l'École normale supérieure et je m'occupe de philosophie morale et politique. Et la deuxième question, c'est l'expérience morale. C'est ça, l'expérience morale qu'on fait. Alors, sur la première question, quels sont les effets moraux, les implications morales du livre. Moi, le problème, c'est que je n'ai pas du tout aimé ce livre, et justement tout, mais pas parce que il m'aurait dégoûté ni fasciné, c'est tout simplement parce que je restais toujours très extérieure, parce que on en sent la fabrication à chaque instant et à chaque page, ce qui fait que je n'ai absolument pas pu rentrer dans ce qu'il décrit. Et et finalement, à force de voir ce que l'auteur veut faire, visiblement, ça l'empêche de le faire. Et dans la mesure où j'ai l'impression que cette première personne qui est censée justement nous attirer peut-être dans l'univers des bourreaux et nous fasciner ou nous dégoûter et produire ces sentiments ambivalents, cette première personne qui plaque des théories qu'on a fait depuis, qui plaque des analyses philosophiques, des analyses historiques, de manière extrêmement extérieure, sans qu'on ait l'impression qu'il le pense, sans qu'on ait vraiment l'impression que ce soit un personnage qui puisse penser tout ça, ça rend cette première personne pour moi très, très abstraite, très inconsistante, et ce qui fait que c'est le corps romanesque de la question qui pour moi m'échappe. La mise en narration, finalement, j'ai l'impression qu'elle n'apporte absolument rien. Et c'est pour ça, il y a notamment, dans la mesure où j'ai beaucoup travaillé sur Arendt, la scène évidemment m'a sauté aux yeux, mais il y a une scène où le narrateur rencontre Eichmann et où il lui explique la théorie que Eichmann reprend ensuite de Kant et qu'il avait dite à son procès. Mais c'est tellement mal fait, on a l'impression que tellement c'est plaqué, que c'est du copier-coller, que finalement, pour moi, ça ne produit aucun effet. Et de même, ce qu'il essaye de faire sur les fantasmes du narrateur, sur ses troubles psychologiques et sexuels, etc., c'est censé provoquer de la fascination ou du dégoût, et moi, ça m'a tout simplement laissé très indifférente, voire j'ai parfois trouvé ça ridicule, ce qui fait que j'ai du mal à... J'ai l'impression que ça ne produit tout simplement sur moi aucun effet. Si on a l'habitude de ce genre de littérature, en fait, si on a l'habitude de lire des récits sur la Shoah si on a l'habitude de tous ces contenus, on n'est pas fasciné parce qu'on connaît déjà, et finalement cette forme narrative, j'ai l'impression qu'elle n'apporte pas grand-chose. Et dans la mesure où il procède sans arrêt par accumulation, donc soit de théories, soit de fantasmes, et c'est extrêmement répétitif, il revient toujours sur les mêmes choses, ça laisse beaucoup trop une impression qu'il a voulu... justement, c'est le problème sur les rapports entre la philosophie morale et la littérature. On ne comprend pas du tout. Là, pour le coup, la littérature n'apporte absolument rien, justement, par rapport à l'histoire ou aux réflexions philosophiques. Ça, c'est vraiment, c'est du point de vue des effets, c'est l'effet que ça m'a fait. Et à côté, ce qui est intéressant quand même dans le livre, c'est tout ce qui montre sur mais qu'il développe assez peu sur les rapports entre notamment la Wehrmacht, l'armée allemande, et les SS, donc entre l'armée traditionnelle et ceux qui s'occupaient du génocide. Et là-dessus, c'est plus intéressant sur la responsabilité des bourreaux, où ils montrent que, où ils montrent les rivalités, les désaccords qu'il y a eu dans le, entre les Allemands pendant la guerre. Mais finalement, je pense qu'il aurait dû davantage le développer. Mais la chose aussi qui me gêne un petit peu, c'est que il commence par une espèce de préface où dans les années 70, il explique comment il s'est mis à écrire ce livre. Et dans cette préface, il explique que toute personne qui aurait vécu dans un régime criminel, finalement, serait probablement devenue criminelle, qu'on a de la chance si on est dans une démocratie, qu'on a de la malchance si on est dans un régime criminel, et qu'on est tous donc concernés, et qu'on aurait tous fait la même chose que lui, quoi. Qu'on aurait tous risqué de le faire, et il termine en disant Mais puisque je vous dis que je suis comme vous. Alors, d'une part, mais ça c'est peut-être quelque chose qui est bien dans le livre, c'est que c'est faux puisqu'il met en scène des personnages, notamment le personnage de Voss qui meurt à Stalingrad, qui s'oppose au régime allemand et qui s'oppose au génocide et qui garde leur lucidité et qui refuse de participer à ça. Et d'autre part, il nous dit qu'il est comme vous, donc on a l'impression qu'on va tomber dans cette idée de banalité, du mal, etc. Et il nous montre un personnage qui nous reste très extérieur parce qu'on qui tue ses parents à la hache, qui a des fantasmes qui nous dépassent, etc. Ce qui fait que cette espèce d'implication du lecteur dans le crime, je ne vois pas comment ça peut fonctionner, à moins de nous dire qu'on est tous aussi troublés psychiquement potentiellement que lui. Et bon, ça c'est sa thèse, mais on a moi ça me laisse complètement indifférente, quoi. Je pense que voilà pour l'instant.
Ce serait, je crois, très intéressant. Il y aura donc des questions tout à l'heure, mais ce serait intéressant maintenant d'avoir le point de vue d'historien, car l'histoire a évidemment été très souvent sollicitée par la première réception du livre. Donc, Sophie Queret.
Merci, je suis Sophie Queret, maître de conférence au département d'histoire de l'École normale supérieure. Alors, cette question de la morale, évidemment, elle est embarrassante, en même temps, elle est présente pour les historiens, puisque les historiens sont toujours sur qui s'intéressent aux violences, et particulièrement aux violences extrêmes du XXe siècle. Ils sont toujours sur le fil entre la rationalisation excessive, qui est une forme de banalisation et de refroidissement des violences, et la compassion, c'est-à-dire l'identification aux témoins. Alors là, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, et c'est ce qui fait l'un des intérêts du livre. On est, en principe, du moins, dans la littérature. Alors, il y a une série de questions qui viennent d'être soulevées, mais qui sont plutôt, me semble-t-il, du ressort des littéraires, en réalité. C'est la question, dans ce livre, du registre de la citation et de l'utilisation de la référence dans un roman réaliste, qui effectivement peut susciter, et c'est mon cas aussi, un sentiment de saturation, d'assemblage de citations mal faites. On l'a fait souvent remarquer, les héros du livre parlent tantôt comme Arendt, tantôt comme Dumézil, tantôt comme Vassili Grossman, et c'est vrai que le lecteur, je dirais un petit peu professionnel de l'histoire du XXe siècle, reconnaît les sources et du coup est peut-être moins pris dans le torrent romanesque qu'un autre. Mais c'est peut-être pas la question qui voulait être soulevée par Jean-Charles Darlon. Moi, ce qui me paraît intéressant dans ce livre, c'est qu'on peut peut-être, sans en faire l'événement du XXIe siècle, le resituer dans un processus que les historiens ont beaucoup étudié pour la Première Guerre mondiale et qu'ils commencent à étudier beaucoup pour la Seconde Guerre mondiale, qui est celui de la démobilisation, en réalité la démobilisation culturelle de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et de ses atrocités, et plus généralement des atrocités du XXe siècle. C'est-à-dire que, me semble-t-il, le débat suscité par le livre montre qu'on n'est pas démobilisé, loin de là, de la Seconde Guerre mondiale. C'est toute la thématique du passé qui ne passe pas, d'où ces accusations de profanation, de déni moral, etc. Mais en même temps, il me semble que l'écriture même de ce livre par Little est une étape, peut-être, dans cette démobilisation culturelle. C'est-à-dire que par rapport à l'ouvrage de Robert Merle en 1952, qui avait été très très mal reçu et peu lu, en réalité, même s'il a été lu plus tard, celui-là a été beaucoup lu, donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque part un intérêt, une acceptation du point de vue du bourreau et une volonté de prendre connaissance de façon très crue des violences nazies. Donc ça, c'est une première remarque que je voudrais faire. Et la deuxième remarque qu'on a, me semble-t-il, peu soulevée, c'est que il y a aussi une thèse dans ce livre qui est celle présente en mineur dans plusieurs passages de l'analogie en réalité nazisme-bolchevisme. Et particulièrement dans le dialogue qui a lieu à Stalingrad entre le héros et son prisonnier soviétique, qui est une citation, je dirais pas un plagiat, mais vraiment une citation très nette du passage de Vie et Destin où Vassili Grossman fait dialoguer à front renversé un prisonnier soviétique et l'officier nazi Lys du camp de prisonniers. Et on retrouve dans ces deux passages l'idée du miroir que se renvoie le nazisme et le bolchevisme. Simplement, je pense que la posture de Grossman quand il écrit ça dans les années 60 et qu'il ne peut pas le publier n'est pas la même que celle de Little. Et c'est cela aussi, je pense que c'est un processus de démobilisation culturelle et de digestion des grandes idéologies totalitaires du XXe siècle. Et c'est vrai que pour Little, c'est quand même, il faut le dire, beaucoup plus facile à écrire.
Merci. Donc moi, je suis le troisième dans le groupe. Moi aussi historien, Étienne François. Je viens de Berlin où je suis professeur d'histoire et je voudrais un petit peu continuer sur ce qui a été dit par les uns et par les autres en faisant part à la fois des très fortes préventions que j'ai eues quand j'ai commencé de lire ce livre et puis du regard que je porte sur lui maintenant. C'est vrai que j'ai commencé avec des préventions très fortes. Je suis très ami de Peter Schoettler, que vous avez cité tout à l'heure. Et l'article de Peter qu'il a publié aussi bien en France qu'en Allemagne m'a impressionné, m'a convaincu. Et donc, quand j'ai commencé à lire ce livre, je l'ai fait à contre-cœur, en étant persuadé que, de toute façon, j'y verrais la vérification de l'exécution en règle que Peter Schoettler lui avait fait subir. Et effectivement, j'ai commencé de lire ce livre avec un crayon à la main, comme un vieux prof, pour noter toutes les fautes d'allemand, et Dieu sait s'il y en a. Ceci étant, c'est pas la faute de Little, c'est plutôt la faute de son lecteur chez Gallimard. Je referme la parenthèse. Deuxième chose, j'avoue qu'au début, j'ai été très irrité par le côté impersonnel de ce personnage qui apparemment dit tout le temps « je », mais qui est insaisissable, et pour reprendre une expression que vous employiez tout à l'heure, qui faisait très copier-coller, comme si finalement Little avait cherché à faire un personnage qui est un portrait de synthèse qui lui permet de mettre bout à bout les citations, les extraits des choses qu'il a pris dans des livres variés pour nous emmener à travers l'Ukraine, à travers la Pologne, à travers la Russie, et puis revenir à Berlin, un côté extrêmement irréel finalement d'un pastiche quasiment. Et puis la troisième réaction que j'ai eue quand j'ai commencé de lire ce livre, vous voyez que les préventions ne manquaient pas, c'était aussi de la difficulté à avancer, parce que je trouvais que c'était long, parce que je voyais pas où ça voulait déboucher, mais c'est après coup seulement que je me suis rendu compte que les préventions que j'avais, la difficulté à avancer, étaient très semblables à celles que j'avais eues des décennies antérieurement, avec deux romans qui sont pour moi les deux romans les plus importants que j'ai lus, La recherche du temps perdu d'un côté et Le rivage des Sirtes de l'autre. Donc c'est peut-être un bon signe. Et ce que je voudrais dire, c'est que après avoir surmonté tout de même ces préventions, à un moment je n'ai pas pu résister et que j'étais entraîné par ce livre et entraîné comme on doit l'être probablement, si tant est qu'on reste en vie, par une tornade ou bien par un tsunami ou quelque chose comme cela. J'ai pas pu résister et au fur et à mesure que je me laissais entraîner, je me rendais compte que j'étais de moins en moins historien et de plus en plus lecteur. Et je crois que c'était aussi une bonne chose. Si j'avais continué de lire ça avec mes œillères d'historien, probablement que je serais passé à côté de la plaque. Alors, j'ai été entraîné jusqu'à la fin, je n'ai pas pu faire autrement, devant un livre qui m'a bouleversé, secoué, je n'arrive pas à trouver la bonne chose, dans lequel j'ai trouvé des choses superbes. On n'en a pas encore parlé, les rêves de Little, qui sont surabondants dans à la fois leur côté très poétique et puis en même temps surréaliste, sont pour moi de gros éléments de lecture, des choses épouvantables, horribles, que je ne comprends pas avoir réussi à lire jusqu'à la fin. Et je n'ai commencé de comprendre ce bouleversement de lecture qu'après coup, grâce à des regards extérieurs que j'ai pu avoir grâce à des lecteurs plus informés et plus subtils que moi. Il y en a trois qui m'ont servi là-dedans. Le premier, c'est Niva, avec tout ce qu'il a mis en évidence de liens avec la littérature russe. Le deuxième, c'est un article qui m'avait beaucoup plu dans la revue Études de Guy Petit-Demange, et qui montrait en particulier que ces aspects les plus rebutants et choquants pour nous, que sont à la fois l'inceste et l'obscénité, sont d'un certain point de vue des métaphores de ce qu'est le nazisme lui-même. L'inceste d'abord avec le paroxysme de la race, qui fait que finalement pour les nazis, le seul couple qui vaut, c'est le couple entre un arien et une arienne, qui sont comme deux frères. Et puis d'autre part l'obscénité, dans la mesure où le nazisme, dans sa réalité, a repris tout ce qu'il y avait de mieux dans la culture allemande pour le pervertir et en faire son contraire. Donc de ce point de vue-là, c'est comme ça que je comprends un peu mieux ces éléments. Et puis la troisième chose qui m'a beaucoup éclairé, c'est l'interview entre Pierre Nora et Jonathan Little, qui dans le dernier numéro du débat que tout le monde a cité, mais même après ces trois Z qui me permettent un petit peu de comprendre pourquoi j'étais entraîné, je suis persuadé que je suis loin d'avoir tout compris, parce que je sens qu'il y a d'autres éléments qui sont tous littéraires. Il y a des tas de références, par exemple, aux bandes dessinées, à commencer par les deux policiers qui sont les Dupont, d'un certain point de vue, ou bien des reprises de jeux vidéo qu'on voit là-dedans, ou bien des formes de romans policiers. Et d'un certain point de vue, si je peux prendre une comparaison sans être trop bavard, le roman, dans sa texture foisonnante et ses contradictions, me rappelle un petit peu les interviews multiples que j'ai lues de Daniel Libeskind pour expliquer ce que c'est que le musée juif de Berlin. Et quand vous lisez les interviews de Daniel Libeskind sur le musée de Berlin, qui est prodigieux d'un point de vue architectural, vous apercevez qu'à chaque interview, il dit quelque chose de différent. Et en même temps, tout ce qu'il dit, même si c'est contradictoire, ça tient, ça marche. Et j'ai l'impression qu'on peut faire un peu la même chose pour ce type de roman. On peut en dire tout et son contraire, et ça reste vrai. Et en même temps, on n'en rend pas compte. Après, une fois ce que j'ai essayé de tirer au clair, il y a certaines choses qui sont restées pour moi et qui me paraissent très importantes. D'abord, quoi qu'en pensent mes amis historiens, et au risque de faire l'aveu de mes insuffisances dans l'histoire du nazisme, je trouve que la qualité de l'information est remarquable. Il a beaucoup lu. Deuxièmement, en ce qui concerne la qualité de l'information historique, même si effectivement les spécialistes, ça ne leur a pas appris grand-chose de nouveau, vis-à-vis d'un large public, Little a mis à la disposition d'un large public les acquis récents d'une recherche historique qui s'est surtout développée après 1989-90, avec l'accès aux archives d'Europe centrale et orientale et une meilleure prise de connaissance de ce que c'était que la brutalité exterminatrice de la guerre sur le front de l'Est, et pas seulement à l'égard des Juifs, mais aussi à l'égard des Slaves. Troisième chose, je trouve que le regard porté par Little sur la Seconde Guerre, très précis, très bien informé et très actuel, est en même temps un regard parlant pour nous dans la mesure où il est réfracté par les expériences de la Tchétchénie et de Srebrenica, qui sont à travers tout cela. Et ça nous aide en quelque sorte à revoir les choses à frais nouveaux et à donc à leur redonner, la fraîcheur c'est pas le bon mot, mais en tout cas une actualité qu'on aurait risqué de perdre avec le langage convenu des historiens. Et pour moi personnellement, ce qui reste, c'est pas ni l'obscénité, ni la brutalité, encore que ça reste, c'est beaucoup plus un roman du mystère du mal. Je l'exprimerai presque en termes théologiques. Un roman dans lequel il n'y a jamais d'amour. Le seul amour qu'il y a est un amour impossible entre Max et sa sœur. Et puis l'amour impossible avec Hélène, mais qui ne débouche pas. Un roman sans Dieu. Un roman sans pardon aussi. Et le tout couplé d'une lucidité énorme et en même temps impuissante. Et ces choses-là, moi, m'a effectivement beaucoup frappé. Ce sont des problèmes qui sont des problèmes moraux, de ce point de vue-là, ou littéraires, beaucoup plus que des problèmes historiques. Est-ce que ça veut dire que ce roman n'apporte rien à l'histoire? Je ne le dirais pas, au contraire. Et là, je ferai une comparaison, si vous me permettez, avec une autre époque qui a vécu aussi des chocs un peu comparables, avec une brutalisation énorme, des circulations d'hommes à travers toute l'Europe, et l'impossibilité de comprendre sur le coup, c'est l'époque napoléonienne. Et quand on regarde après coup quels ont été les meilleurs interprètes de l'époque napoléonienne, on se rend compte que ce ne sont pas les historiens, mais que ce sont les romanciers, de Stendhal à Tolstoï. Et je me demande si Little n'est pas en train de jouer dans cette nouvelle forme d'interprétation qui n'épuise pas le sujet du Troisième Reich, un rôle comparable à celui qu'ont pu jouer au XIXe siècle les grands romanciers d'Europe, qui, à mon avis, ont été plus loin que ne l'ont été les historiens. Parce qu'ils nous rappellent tout simplement qu'il s'agit non seulement d'une question qui interpelle les historiens, mais plus profondément d'un problème existentiel fondamental qui va au-delà des questions d'historisation, et que face à des enjeux comme ceux-là, l'historicisation est quasiment impossible. J'ai parlé beaucoup, donc j'arrête. Je terminerai par une dernière remarque qui, pour moi, est une remarque importante, puisque j'habite à Berlin. Je suis très impatient et en même temps très perplexe sur les réactions possibles de l'opinion publique allemande lorsque le roman sera traduit en allemand. Je ne suis pas du tout sûr que ce roman, une fois qu'il sera traduit en allemand, ait le même succès que le succès qu'il a eu en France ou dans d'autres pays. Je pense plutôt qu'il y aura, les préventions que j'ai évoquées tout à l'heure vont se manifester beaucoup plus fort pour des raisons variées. La première raison d'abord, qu'il ne faut pas se nier, qui sera importante, qui consistera à dire le nazisme et la Shoah, c'est le problème allemand par excellence, donc tous ceux qui en parlent de l'extérieur sont disqualifiés par principe, surtout lorsqu'ils ne savent pas l'allemand. On a entendu cet argument-là, je suis sûr qu'il va nous ressortir très souvent. Deuxième argument qui va ressortir, oui mais l'enjeu est trop important, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu philosophique, c'est un enjeu éthique, et c'est pas avec de la littérature qu'on va le résoudre. Si on fait de la littérature, on commence à faire de la banalisation. Et donc on va avoir une surenchère de discours moralisateurs au mauvais sens du terme pour dire que ce roman est une nouvelle forme de relativisation du nazisme. Ça, c'est ce qu'on entendra. Je pense et j'espère qu'on aura aussi d'autres voix. La première voix, ce sera celle de ceux qui reprendront ce que, en son temps, Thomas Mann avait dit à propos de Hitler. Thomas Mann disait de Hitler « Bruder Hitler », c'est-à-dire « Hitler, mon frère ». Et j'espère qu'un certain nombre d'Allemands diront aussi « Max Bruder »,« Mein Bruder »,« Max Auer, mon frère ». Et puis il y a ceux peut-être qui diront, comme Günther Grass, beaucoup plus impliqué dans cette histoire-là qu'on ne se l'imaginait il y a quelques mois, « Ça ne finira jamais ». Et c'est un petit peu cela aussi que me rappelle le roman de Jonathan Little. Merci.
Oui, bon, moi je suis professeur de littérature comparée à Poitiers. Et c'est en littéraire, bien sûr, que j'ai lu ce livre. Je vais répondre à la deuxième question d'abord et avant tout. Pour moi, c'est une expérience de lecture d'un texte littéraire, un vrai texte littéraire. Peu m'importe qu'il soit un chef-d'œuvre. Ce que je sais, c'est que ça n'est pas un canular, comme ça a été dit. C'est un texte où l'auteur s'égare. Il s'égare à dessein. Il l'a dit, et de manière très intelligente, à mon avis, très lucide. Et il égare son lecteur, et là aussi à dessein. C'est un texte problématique, parce qu'il égare son lecteur dans des contrées et des zones dangereuses. Mais c'est précisément pour ça un texte qui a produit pour moi un plaisir particulier, qui est celui d'une lecture critique. Parce que c'est cela qu'il demande, qu'il exige, je pense, et que ça va prendre du temps, parce que c'est une énorme chose, assez compliquée et ambiguë. Donc je pense que c'est pour moi d'abord sa valeur essentielle, c'est que c'est un effort remarquable de compréhension d'un réel lui-même abyssal, énigmatique, et qui suscite une nouvelle énigme, cette fois littéraire, un objet qu'on a envie de comprendre à son tour. Alors il y a eu, donc moi je pense que c'est ce travail-là qu'on doit faire, hein, pour au fond dissoudre les malentendus qui se sont formés immédiatement, hein, les premières réactions. Alors d'abord la réaction de l'objection littéraire, hein, qui lui est faite, selon laquelle la forme littéraire de son roman serait trop traditionnelle, ne prendrait pas acte au fond de ce qu'il raconte, de la démesure de ce qu'il raconte. Alors là il faudrait voir exactement son rapport à son propre modernisme. Enfin, il fait des références, hein, à Blanchot, Genet, Bataille. À mon avis, il y a une relation finalement paradoxale, peut-être même autodestructrice, je crois, dans ces références-là, hein. mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, il faudrait aller dans le détail du texte. Et bien sûr, les grandes objections qui se sont fait entendre davantage, ce sont les objections historiennes, et qui là, à mon avis, relèvent du malentendu. Je crois qu'avant d'envisager la vraie question, au fond, celle de la narration du bourreau, la vraie question morale, la question du témoignage du bourreau réel est déjà un problème en soi. Est-ce qu'un bourreau peut témoigner? En tout cas, de quoi exactement témoigne-t-il? Et ces questions-là, elles sont encore compliquées avec la mise en fiction, cette fameuse usine à souvenirs dont se réclame Max, ce narrateur improbable. Donc le problème de l'identification de l'auteur à son narrateur et le problème de l'appel à l'identification du lecteur à ce personnage narrateur, pour moi, sont à traiter sur le mode critique en analysant les procédés littéraires, c'est-à-dire la référence au tragique, la référence, l'usage ambigu de ces références à un certain modernisme, en gros, qui va du côté de la littérature et du mal. Donc il y a ce malentendu de la vraisemblance, de l'invraisemblance, par exemple, pour moi c'est un peu malentendu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre en fait qu'il y a un grand malaise, le malaise des historiens est en lui-même, au-delà d'une querelle de territoire qui a pu s'exprimer, il est intéressant en lui-même parce que c'est l'énormité documentaire, en fait, l'énormité du travail documentaire produit par Little, qui est vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu cette effraction. Ça fait longtemps, au fond, que la littérature se sert de l'archive, y compris dans ce domaine-là, dans le domaine des phénomènes totalitaires et du nazisme. Mais par contre, ce que fait Little, c'est nouveau, justement par cette démesure, par cette énormité, par cette exactitude quand même. Et je crois que là, il fait quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'effraction, bien sûr, mais de l'ordre de la consécration, peut-être même de l'institution d'un geste démesuré, et qui du coup affirme un droit de la littérature sur l'archive, sous la forme même d'une préséance, puisqu'il vole en quelque sorte aux historiens leur public. Du coup, je pense que... les objections, certaines des objections en tout cas peuvent tomber, c'est-à-dire que si l'on considère véritablement la structure du texte, si on se pose véritablement la question de ce qu'il a voulu faire et de ce qu'il y fait, je crois par exemple l'effet des fiches de lecture, qui est réel, tout à fait réel, l'effet du couper-coller qu'on lui a beaucoup reproché et encore tout à l'heure, c'est à mon avis très très évidemment intentionnel, c'est-à-dire que ce sont des effets parodiques qui relèvent d'un procédé de montage, dont il d'ailleurs se réclame lorsqu'il parle du festin nu, par exemple. Il est clair qu'il fait la même chose, dans un registre tout différent. On ne m'entend pas bien ? Dans un registre tout différent, là on m'entend mieux ? Oui, je sens qu'on entend mieux. Et c'est bien ça le problème, c'est le déplacement du registre. Et c'est ça qui pose fondamentalement, enfin les questions pour moi essentielles de cette lecture critique à avoir. Mais en tout cas qui est, par exemple aussi l'argument de l'anachronisme, bien sûr, c'est constamment anachronique. Mais là aussi, à mon avis, il joue sur cette actualité critique du débat sur l'historiographie du nazisme continuellement. Et on en voit des marques très très claires, par exemple, lorsqu'il se pose la question, lorsque le héros, le narrateur, il se promène à Auschwitz, dans la ville, et il se dit, mais qui a écrit sur ce mur Katyn égale Auschwitz? Bon, là, c'est clair que c'est une question ironique, c'est-à-dire que Katyn est pris comme le paradigme qu'il est devenu des crimes soviétiques, et que c'est évidemment, personne n'a écrit ça sur le mur au moment où lui s'y promène. C'est évident. On pourrait multiplier, à mon avis, les signes, les marques très claires, que ce sont des montages intentionnels. Maintenant qu'on l'apprécie ou qu'on puisse le déchiffrer totalement, je ne le sais pas moi-même encore. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un mixte, effectivement, de l'historiographie et du littéraire, qui est complexe et qu'il faut, à mon avis, en prendre acte dans ce qu'il produit. Little ne joue pas sur le faux et le vrai, sur le brouillage du document et de l'apocryphe comme a pu le faire par exemple Danny Lokis dans Le tombeau pour Boris Davidovitch dans les années 70. Il fait autre chose, en fait il joue effectivement sur la construction d'un imaginaire
à partir d'un réel fondé par l'archive. Et donc il construit une fiction individuelle à partir d'un univers qu'il tente de restituer par une forme de noyade du lecteur dans l'archive. Et son jeu propre à lui, ça n'est pas le jeu du brouillage du faux et du vrai, c'est la fabrication d'un pacte de lecture pervers qui situe donc l'acte de lecture continuellement dans la zone grise, avec un effet chronique de culpabilité du lecteur, hein, toi lecteur tu es mon frère, hein, et donc aussi dégoût, et ce dégoût ne cesse pas du début à la fin, on est continuellement dans la zone grise, continuellement dans le dégoût et dans la réflexion aussi du même coup, et c'est ça qui est à mon avis la force du livre, c'est-à-dire que le livre ne nous donne pas le seuil éthique, nous le montre pas, mais on le cherche continuellement. Donc il me semble déjà qu'il y a une grande réussite, une grande performance de cette noyade-là dans l'archive. En fait, elle est même très surprenante parce que ça marche, on lit quand même, et il est très lu finalement ce livre, malgré tout ce qu'on a dit contre lui. C'est-à-dire que l'archive, bizarrement, prend effectivement vie, crée un monde. On a l'impression que ce sont les monuments, les langages totalitaires de Jean-Pierre Fay, la destruction des Juifs d'Europe de Raoul Hilberg, ça prend vie d'une manière qu'on n'aurait jamais cru possible, en fait. Et pourtant, effectivement, comme l'a dit Claude Lanzmann, il n'y a pas d'incarnation. Et ça, c'est très frappant, il n'y a pas de véritable témoignage, il n'y a donc pas d'incarnation, au sens où en parle Lanzmann, alors que pourtant, il est continuellement question de corps, mais d'un corps, d'une chair, qui sont de l'ordre de la pathologie, de l'ordre du résidu fantasmatique. Et c'est précisément là, justement, que se réfugie ce qui relève de la tragédie. Alors pour moi, c'est ça la grande question. Quel est le statut exact de cette, à la fois de cette référence à la tragédie, hein, qui donne au livre ce titre, à mon avis profondément ironique, Les Bienveillantes, et quel est le statut exact de cette abjection littéraire visiblement inspirée de Sade, Genet, Bataille, Blanchot, etc., mais qui, à mon avis, ne peuvent pas rendre compte, qui à mon avis ne peuvent s'expliquer qu'en termes de clivage, je dirais presque. C'est-à-dire, il y a d'un côté une violence, et la violence proprement génocidaire, dont on ne peut rendre compte en termes de tragédie, ni d'ailleurs d'abjection. Hein, on est dans l'ordre de la logique génocidaire, dans l'ordre de la bureaucratie. Et de l'autre côté, on est dans un crime effectivement tragique, enfin qui fait signe vers la tragédie. Le narrateur tue sa mère, son beau-père, il tue ensuite son meilleur ami après avoir tué un ancien amant, etc. Là, c'est donc le crime, si je puis dire, civil. Et c'est de ce point de vue-là, au fond, hein, que l'imaginaire de la tragédie se remet en branle, mais d'une manière, à mon avis, elle aussi prise dans cette pathologie, une pathologie de l'abjection, du ridicule, du cliché. Et alors pour moi la grande question c'est de comprendre exactement ce qu'il a voulu faire, hein, dans ces très très nombreuses, innombrables pages, en particulier dans le chapitre R qui les condense en quelque sorte, tous ces fantasmes pervers, proprement pervers, et qui ont trait à la relation incestueuse avec la sœur. C'est-à-dire que moi, comme vous le disiez, il n'y a pas d'amour, effectivement, et ça c'est à mon avis une des grandes questions pour prendre en tout cas ce questionnement critique par là, il n'y a pas d'amour dans ce texte. Et au fond, ce que ce texte raconte, c'est l'évitement, c'est le ratage du féminin, c'est le ratage de l'amour, à travers une relation incestueuse à ce personnage de la sœur Una, qui n'est pas du tout un personnage de bataille, justement. C'est le contraire. C'est pas du tout un personnage du déchaînement, c'est un personnage du désenchantement. Hein. Même leur jeu érotique au grenier semble bien triste, puisqu'elle lui tend rapidement de la cold cream, enfin, c'est pas très batalien non plus. Elle est de toute façon désenchantée, et elle ne cesse pas de dire... nous ne sommes plus des enfants, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que dit Bataille, en gros. Bon, voilà.
Oui, Michael Werner, je suis historien, j'ai des origines littéraires, et c'est en cela que je me suis senti doublement concerné par ce livre, au-delà des aspects personnels de quelqu'un dont la famille, d'une certaine façon, est aussi liée ou a été mêlée à l'histoire de la Shoah. Je ne veux pas reprendre le récit qu'a donné Étienne François de son expérience de lecture, parce que ça correspond à peu près aussi à mon expérience à moi, c'est-à-dire les réticences, le dégoût, l'écœurement, et puis l'effet d'entraînement qui s'est produit au bout de 150 pages. Et ensuite, je me suis trouvé devant le problème, comment expliquer ce passage, cet effet d'entraînement, et comment expliquer les phénomènes de distance ou de distanciation, de double distanciation, pourrait-on dire, qui s'instaure, qui s'effectue à travers la lecture de ce livre. Au fond, pour moi, le livre est une tentative de réponse à une question qui n'en a jamais trouvé, auquel les historiens n'ont pas pu trouver, que Hannah Arendt n'a pas pu trouver, avec la thèse de la banalité du mal, que Christopher Browning n'a pas pu donner, avec son récit des Einsatzgruppen sur le front de l'Est, de l'homme ordinaire. Donc pour moi, Little essaie de proposer un autre type de réponse qui ne passe donc qui est l'imagination ou la fiction d'une version de la vision du bureau. Or, comme l'a dit Catherine Coquillot très bien, évidemment cette vision du bureau, à la différence de tous les témoignages qu'on a du côté des victimes, c'est célèbre, elle est évidemment, et c'est une fiction, c'est une construction, c'est quelque chose qui procède par une sorte de cohérence, de construction de cohérence individuelle au niveau micro d'un individu, mais qui procède par collage, montage, fragmentation, par incohérence fondamentale. Et en fait, pour moi, c'était ce jeu de distance entre un narrateur invisible qui est Little, qui met tout cela en scène, et le narrateur officiel Max Hao, ce jeu de va-et-vient, de miroir, mais aussi de prise de distance, qui fonde la puissance de ce livre. Donc, on peut maintenant s'interroger sur les procédés littéraires. Catherine en a indiqué toute une série de références. On peut s'interroger sur ce que Little mobilise de ce point de vue-là, selon le registre de l'intertextualité, selon le registre, disons, du tragique, de la tragédie grecque, de toute une série de modèles littéraires. Donc qu'il mobilise, mais il les mobilise pas, et pour moi c'est ça qui est important, pour construire une cohérence. C'est-à-dire, en fait, il ne donne pas de réponse à la question de la compréhension de ce qui reste incompréhensible. Il donne une sorte de patchwork à multiples niveaux qui fait résonner un certain nombre de choses chez le lecteur, qui ne sont pas justement ou pas seulement simplement du registre de l'identification, parce qu'il est très subtil justement en introduisant aussi des freins, des barrières vis-à-vis de l'identification. Et donc c'est Max Hao qui dit mon frère Max. Mais évidemment, le lecteur, il ne peut pas répondre qu'il est le frère de Max Hao. C'est-à-dire, il se sent toujours, en quelque sorte, il reste en décalage, en porte-à-faux, vis-à-vis de cette proposition qui n'est pas une proposition sérieuse. Donc, je crois que ça, c'est pour moi le trait fondamental du livre. Et du coup, pour répondre à la question de Jean-Charles, le type, évidemment, d'expérience morale auquel invite le livre n'est pas du tout de l'ordre de « est-ce que moi aussi j'aurais pu ou comment j'aurais réagi ?» qui est une question que chacun se pose, évidemment, par rapport à la Shoah. Mais c'est plutôt celle de comment peut s'agencer dans une suite d'événements au quotidien un déroulement imposé à la fois par une histoire individuelle, familiale, et d'autre part par le déroulement macro de la guerre. Donc comment l'individu ou le personnage fictif, quelque chose qui n'existait juste précisément pas, qui n'est pas un personnage historique, comment il... quel type de commentaire et de vision il peut recoller pour donner non pas un sens à cette histoire, mais simplement pour l'enchaîner d'un bout à l'autre. Et je pense que c'est cet effet d'enchaînement à la fois très artificiel, mais en même temps monstrueux, qui fait la force de ce livre et qui, pour moi, pose une question, en fait, est aussi un type d'expérience morale, si on peut dire, puisque ça pose la question du rapport de l'individu à l'histoire, non seulement de l'individu autre, de celui qu'on n'est pas, mais de la manière dont on est soi-même, chacun à sa manière, donc impliqué dans des tas d'histoires différentes qui sont à la fois de la grande histoire et puis qui sont de l'ordre de la banalité du quotidien. Donc la force pour moi de ce livre, c'est d'avoir essayé une autre forme de réponse qui n'est pas celle de la banalité du mal ou de la banalisation, mais qui est celle de la construction du monstre banal ou du monstrueux dans le quotidien.
Bon, Bertrand Ogilvy, donc j'enseigne la philosophie politique à Paris 10 Nanterre et je suis par ailleurs psychanalyste. Je vais essayer de ne pas répéter les quelques belles choses qui viennent d'être dites. J'ai lu, je vais en répéter une, pourtant pour commencer, j'ai lu ce livre effectivement comme une œuvre de fiction, comme une œuvre littéraire, et il me semble en effet que c'est sur ce terrain-là qu'on peut essayer de lui assigner une place. C'est le seul terrain sur lequel on peut essayer de lui assigner une place. C'est un livre qui présente pour moi, qui a présenté pour moi 5 points d'intérêt. C'est un livre, premièrement, qui a un rapport, non pas avec la ou le politique, mais avec ce que j'appellerais, en prenant ce concept à philosophe italien Esposito, mais avec l'impolitique, c'est-à-dire avec le refus de nommer des identités simples. C'est un livre, au fond, sur l'identité, ou plutôt sur la non-identité, c'est-à-dire sur la situation jamais complètement assignable d'un personnage qui n'est jamais complètement identique à lui-même. C'est le point qui m'a, tout au long de cette lecture, le plus frappé. On peut dire que c'est un lieu commun qui mérite, à mon avis, d'être répété inlassablement. On peut dire que tout grand livre est un autoportrait, mais évidemment pas un autoportrait au sens représentatif, encore moins au sens ressemblant. Et on a ici, dans cet ouvrage, une sorte d'autoportrait au carré, un autoportrait indirect, un autoportrait du non-identique. L'auteur écrit ici un livre sur un personnage qui lui-même fait son autoportrait comme non coïncident à soi, et c'est sans doute un des facteurs de la fascination qu'exerce ce livre, et je dois dire que cette fascination me semble être l'attitude normale qu'on peut éprouver face à une œuvre qui, toujours, quand elle tient, offre justement un face-à-face avec cette non-coïncidence. C'est ça la définition pour moi d'une œuvre littéraire et peut-être d'une œuvre artistique en général. Et la fascination me semble en être le corréla inévitable dont il n'y a pas à se justifier. Bon. Deuxième point, c'est d'une certaine façon un livre sur le mal, mais j'ajoute tout de suite un correctif, pas en un sens banal, justement pas au sens du mal entendu comme entité simple, mais je dirais que c'est un livre, me semble-t-il, sur le fait que, comme l'aurait dit Aristote, le mal ne peut se dire que de façon multiple. Alors, bon, l'histoire, la guerre, l'exterminisme comme forme paradigmatique de la politique et de ses débordements, de l'impolitique donc au XXe et au XXIe siècle, la bureaucratie, la pesanteur de l'État, la constellation des positions des personnages par rapport à l'effectivité de cette tâche excessive, les engrenages, comme l'a dit mon voisin qui est parti, bref, une façon de dire le mal, de décliner le mal selon des axes et des approches irréductibles les unes aux autres, multiples, qui évitent systématiquement de le poser comme un problème classique de responsabilité morale d'un sujet. À cet égard, ce livre n'est pas pour moi en contradiction, mais disons en position de correctif à l'idée de banalité du mal telle que Hannah Arendt l'a développée. Troisième point, mais j'irai vite là-dessus, c'est un livre pour moi qui renforçait les analyses qui me semble extrêmement forte de Bataille dans son livre La littérature et le mal, sur la connivence profonde qui existe entre la littérature et le mal, ou ses formes du mal. La littérature est dangereuse, la littérature est un lieu à la fois de danger, mais où il est possible de faire face aussi à ce danger. Et je crois que c'est particulièrement intéressant que Jonathan Little, dans un article récent paru dans Le Monde à propos du crime de masse de l'université de Virginie, c'est ça, ait développé cette thèse de la fiction comme comme lieu sensible d'une possibilité de basculement du mal ou du non-mal. Bon. Quatrième point, évidemment, ce qui a fait le scandale du livre, ou une partie des réactions négatives à l'égard du livre, c'est aussi, dans la même direction, l'idée, me semble-t-il, c'est comme ça que j'ai lu le livre aussi, l'idée d'aller chercher chez les nazis la compréhension, je donne à ce mot son sens normal, je ne le confonds pas avec la justification et l'excuse, comme parfois on veut le faire, la compréhension de leur histoire et aussi la façon d'y résister, cette manière d'aller chercher chez eux cette logique profonde, c'était aussi, je le rappelle, l'attitude de Bataille, quand il a écrit en 1933 la structure psychologique du fascisme, qui lui a valu des réactions quasi unanimes de rejet et de condamnation. Le cinquième point, ce à quoi j'ai pensé sans cesse en lisant le livre, puis ensuite en y repensant, puisque je vais faire allusion à des événements postérieurs à sa parution, c'est là je répondrai assez directement à la question qui était posée, c'est le rapport qu'il y a entre l'événement de ce livre en France en tout cas et un certain nombre d'autres événements qui font tous symptômes de façon un peu systématique, que je citerai dans le désordre. D'une part, la réception par la presse française du film de Lars von Trier qui s'appelle Manderley. Je ne sais pas si vous vous souvenez des deux pages le même jour dans Le Monde et dans Libération qui encadraient une descente critique de ce film par des articles d'historiens convoqués pour expliquer que jamais dans la réalité les choses ne s'étaient passées comme dans le film, ce qui était évidemment un point de vue, c'est pas tellement qu'il est absurde, c'est surtout que c'est le problème de la dénégation du statut de la fiction qui est en jeu ici. Je rapprocherai aussi le symptôme de cette réception de la déprogrammation d'une pièce de Peter Handke, la Comédie française, sur laquelle j'ai écrit par ailleurs des choses, donc je ne me répète pas. Également de la proposition qui existe aujourd'hui dans l'université française de cesser d'enseigner des auteurs comme Heidegger et Carl Schmitt et de reléguer leurs œuvres dans le rayon documents historiques des librairies et des bibliothèques. Et aussi, j'en ajoute parce que tout ça fait système, le cas Junger, qui fait l'objet de toutes sortes d'analyses critiques aujourd'hui, tout à fait légitimes, sauf sur un point très étrange, qui est celui dans lequel elle converge vers l'idée que, dans la mesure où la littérature, l'œuvre de Junger serait profondément compromise avec le nazisme, alors, et ça je ne prends pas parti là-dessus, alors il ne serait pas un écrivain. Et c'est sur cette question évidemment que je pense qu'il est intéressant de rapporter ces symptômes les uns aux autres. Évidemment, j'ai ressenti la même chose, c'est amusant que vous ayez dit ça, en lisant ce livre et en lisant moi aussi un des livres qui ont le plus compté pour moi, à savoir Le rivage des cires de Julien Gracq. Et comme vous savez, Julien Gracq est aussi sous l'œil de la alors de quoi, de la censure, on peut dire. Je crois que oui, je crois qu'on pourrait dire que ce qui est intéressant dans cet ensemble de symptômes, c'est une incapacité à accepter qu'il y ait une pensée, une consistance intellectuelle et comportementale de l'ennemi. Voilà. Où on a une consistance et on est du bon côté, où on n'en a pas et on n'a pas d'existence ni de consistance. C'est exactement la thèse que critiquait Bataille dans La littérature et le mal, qui tentait de faire valoir la possibilité d'une pensée du mal qui porte atteinte, disait-il, à l'orientation fondamentalement téléologique ou finaliste de tout un courant majoritaire de la pensée occidentale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une tendance en France à homogénéiser les registres discursifs dans leur ensemble, sous domination d'un point de vue moral qui est extrêmement inquiétante. Et pour finir, je dirais que, pour répondre aussi à une des propositions qui ont été avancées tout à l'heure, que le problème à mes yeux, ce ne sont pas tellement la question ce ne c'est pas du tout la question du statut moral des œuvres de fiction, évidemment, mais c'est plutôt la question du statut général que la fiction a dans une société, et je crois que cette question aujourd'hui en France est dans une situation critique.
Je suis Francis Wolff, je suis professeur au département de philosophie de cette école. Bon, le hasard fait que je parle en dernier, mais j'espère.
Il y aura aussi Pierre Assouline.
D'accord, ah bon. Donc je suis content de ne pas parler en dernier. Je voudrais commencer par dire que j'ai très peu lu sur le livre, l'ayant lu finalement assez récemment et n'ayant presque rien lu des polémiques, ayant attendu justement que les polémiques peut-être s'apaisent pour donner lieu à d'autres polémiques plus politiciennes pour lire ce livre. Et je dois dire que, comme je crois la majorité des présents, j'ai été entraîné dans sa lecture. Il présente une espèce de force intrinsèque tout à fait extraordinaire. Et évidemment, comme je crois la plupart d'entre nous, je n'ai pas cessé évidemment d'être par ailleurs ou en même temps gêné ou mis en difficulté en tant que lecteur. Je crois ne pas avoir assez de recul pour analyser parfaitement cet effet-là en moi. Je crois que cela vient, et peut-être même je vais avancer une thèse à ce propos, cela vient du fait que le livre, à mes yeux, c'est ce qui fait à la fois sa très grande puissance et peut-être d'une certaine manière son échec, essaye de mêler de façon qui paraît un défi, au fond une thèse ou un certain fond conceptuel avec un certain usage du jeu. Et je crois là qu'on touche à quelque chose qui ressemble à un impossible. Je vais essayer d'expliquer de façon assez maladroite sans doute ce que j'entends par là. Pour parler, pour décrire le mal, si je puis dire, évidemment les procédés ne manquent pas. Il se trouve que depuis quelques courtes décennies, il y a une identification comment dirais-je, inquestionnable, indiscutable, incontestable entre le concept même de mal et les événements du nazisme, voire la Shoah, et que par rapport à la manière d'en parler, il y a eu ou il y a peut-être deux positions tout à fait antagonistes, et ce livre essaie d'en adopter une troisième, une espèce de tentative extrêmement virtuose, et sans doute, je le répète, peut-être un échec, pour adopter une troisième position. La première position serait une espèce de position, disons, classique, que nous avons héritée des Lumières, et peut-être en partie d'un certain christianisme, c'est-à-dire qui est fondée sur le concept de responsabilité individuelle face au mal. On a un sujet, il y a en face de lui quelque chose comme la loi, que ce soit la loi morale, la loi politique, la loi sociale, et le sujet individuel est dans la situation de la transgression. Il y a toute une littérature qui est précisément ce qu'on a appelé le rapport de la littérature et du mal, qui sont des littératures de la transgression, où on adopte d'une certaine manière le point de vue de celui qui incarne le mal, et j'entends ici incarner peut-être au sens où l'entendait Lanzmann quand il disait que ce livre était désincarné. C'est-à-dire que on a le récit, la description, la phénoménologie de la tentation, de la fascination, du tremblement, de l'épuisement et d'une certaine manière de l'accablement et en même temps de la fascination, de la jouissance du bourreau. Ce livre n'adopte pas ce point de vue. On a à l'opposé, alors évidemment, là, si je puis dire, un certain jeu est possible, je crois, dans ce type de littérature ou dans ce type de rapport au mal, qui est le jeu de celui qui, en quelque sorte, est face à la loi et qu'il, d'une certaine manière, qu'il transgresse avec ce mélange de fascination, de jouissance et d'abandon, d'écrasement. Face à cela, il y a quelque chose qu'on a appelé la banalité du mal qui a trouvé son expression à la fois phénoménologique et philosophique ou théorique dans Eichmann à Jérusalem et dans un certain nombre, je crois, de travaux d'historiens. On a parlé de Christopher Browning, par exemple, en effet. C'est-à-dire, là, on a quelque chose qui est un rapport, je crois, tout à fait inverse. Où il y a une évanescence complète du sujet, du jeu, et c'est en réalité la loi ou ce qui en tient lieu, l'universel ou le commandement absolu qui est mis en position du mal. Fameuse citation auquel évidemment fait allusion. C'est plus qu'une allusion, évidemment. Little de Kant par Eichmann dans le récit qu'en fait Hannah Arendt. Donc là, il y a l'idée qui a été souvent analysée, reprise, qu'il n'y a plus de jeu possible. Le mal est quelque chose de banal dans la mesure où qui que ce soit pourrait en quelque sorte, être bourreau ou victime, et qu'il suffit qu'il y ait un rapport dans lequel le moi que je suis, au lieu de s'exprimer comme classiquement contre la loi, n'est-ce pas, se met en position d'obéissance, se met en position d'obéissance face à l'universel, et devient lui-même en quelque sorte une troisième personne. C'est la position adoptée par Eichmann. Et c'est la position qu'ont adoptée, je crois, un certain nombre de gens qui ont parlé de la banalité du mal. Alors je crois que ce que veut, je ne sais pas s'il l'a voulu consciemment, mais je crois que ce que tente de faire ce livre, c'est de se placer d'une façon à la fois extrêmement, je répète, intéressante et peut-être impossible, dans une troisième position. C'est-à-dire la position du « je », n'est-ce pas ? Mais qui n'est ni le jeu du bourreau qui sait, en quelque sorte, qui se met face à la loi et qui, en quelque sorte, est dans la position de la transgression, la littérature et le mal, ni ce je en quelque sorte évanescent qui devient une troisième personne, parce que ce je dont on nous parle, ce Max Hauer, il est extrêmement vivant, et d'une certaine manière, on le surcharge d'un je psychologique. On ne nous épargne rien de sa sexualité, de ses modes de perversion, qui ont l'air finalement relativement... qui sont psychologisés d'une certaine manière pour donner une certaine consistance à ce jeu. Mais par ailleurs, le fond de tout cela, le fond conceptuel, l'arrière-fond de tout cela, c'est la banalité du mal. C'est frères humains, nous sommes tous, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeu. Et d'une certaine manière, cet effet de désincarnation, que j'ai ressenti moi aussi, c'est précisément la tentative d'un jeu impossible qui n'assume pas la position du bourreau. Et j'ai essayé de repérer les moments où le jeu, en quelque sorte, prend une position narrative par rapport à quelque chose qui ressemble à un acte. J'ai fait ceci. Ou j'ai, à ce moment, j'ai agi. Et il n'y en a jamais. C'est-à-dire qu'au moment où on passe du je, qui est le je qui est capable de honte, par exemple, il y a un moment, il y a une scène de honte, et le moment où cette scène de honte, c'est quand le narrateur se souvient qu'il a, en quelque sorte, chahuté un professeur au collège d'une façon qui était, disons, voilà, cruelle. Voilà. Alors là, il évoque cette honte. Bon. Donc là, on a quelque chose d'un jeu éthique, moral, relativement banal, enfin, classique, bon, rapport à l'acte, un retour sur l'acte, etc. On a des moments comme ça où il y a un jeu extrêmement vivant, quand il décrit des scènes de dégoût, généralement liées à la sexualité, ou liées à la scatologie, ou des choses comme ça. Parfois, il y a un passage qui se fait, mais très très... quand le personnage est en position très extérieure de spectateur dans les premières scènes auxquelles il assiste. Première scène, disons, d'horreur auquel il assiste, il y a le phénomène de dégoût. Bon, très bien. Alors évidemment, on pense à Eichmann qui disait qu'il y avait du sang, etc. Bon. Mais dès lors que le je serait en position d'agir, c'est-à-dire dès lors qu'on nous dit, enfin dès lors qu'il parle à la première personne de ce qu'il a fait, jamais le je ne revient en position d'assomption des actes. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui serait en effet impossible, c'est-à-dire que jamais on veut nous dire que, au fond, ce qu'il a fait, chacun aurait pu le faire, et donc se mettre dans la position de la banalité du mal, qui serait celle d'une troisième personne avec évanescence de la première. La première personne n'est là que d'une certaine manière pour essayer d'adopter le point de vue classique sur le mal, et je trouve qu'il y a en effet cette désincarnation, puisque face au mal lui-même, c'est-à-dire aux actes dont il est lui-même coupable, il n'y a jamais le moindre tremblement, ni la moindre assomption, ni au présent, ni au passé, de ses propres actes. Et c'est, je crois, cette contradiction entre la tentative pour assumer ces deux points de vue à la fois, le point de vue relativement classique sur le mal et le point de vue, disons, banalité du mal, qui constitue à la fois son moteur et sa contradiction en ce livre. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de dire « je » lorsqu'il s'agit de vouloir, en quelque sorte, illustrer, décrire d'une façon, par ailleurs, extraordinairement fascinante, le mal dans toute son horreur, mais dans toute sa banalité.
Pierre Assouline.
Bien, bonjour. Oui. Oui, je vais être bref, parce que d'abord, je suis le dernier, donc, comme vous avez dit, c'est plus difficile. Et puis, je ne sais pas exactement tout ce qui s'est dit avant, donc c'est toujours un petit peu délicat. Je ne vais pas revenir sur toutes les réflexions qui ont été faites sur les rapports entre la littérature et le mal, parce que je dirais la même chose en moins bien. Et je partage notamment ce qu'a dit mon voisin de gauche, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Je voudrais juste évoquer deux ou trois aspects qui, moi, m'ont frappé à la lecture du livre. Et je précise, à la lecture du livre, entre le 15 et le 25 août. Pourquoi je le précise? Parce que, étant journaliste, j'ai la chance de recevoir les livres sur épreuve. J'ai reçu celui-ci au mois de juillet sur épreuve. Et c'est important, parce que je reprends là une distinction justement de Maurice Blanchot, qui est un auteur très cher au cœur de Jonathan Little. Il est bon de séparer les livres du bruit qu'ils font. C'est une chose de lire Jonathan Little au mois de juillet, c'est une autre de le lire au mois d'octobre. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Quoi qu'on fasse, on est quand même dans un halo, et on ne peut pas le saisir innocemment. Donc j'ai eu cette chance, et je l'ai lu comme tel. Alors, la première chose, et ça m'a frappé à partir du mois de septembre, c'est un aspect purement éditorial. C'est-à-dire que il faut louer ce livre aussi, pour quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui a son importance, c'est pour confirmer le fait que, encore une fois, le marketing dans l'édition ne veut rien dire. Ce livre avait tout contre lui. Et il a retrouvé tout pour lui à partir de sa sortie. Grâce, alors on dira grâce aux libraires, certainement, grâce à la presse, grâce aux médias, et grâce avant tout à ce qu'on appelle le bouche à oreille, et qui est la chose la plus immaîtrisable et la plus incontrôlable qui existe, et qui fédère effectivement un certain nombre de sources convergentes, mais que personne, et surtout pas un éditeur, ne peut maîtriser. Je rappelle quand même que ce premier roman, signé d'un inconnu et totalisant un millier de pages, c'est-à-dire qu'il a quand même trois choses contre lui, inconnu, premier roman, et le premier roman ne se vend pas en France, et en même temps, un très gros livre. Les gros livres, comme on sait, dans l'esprit des éditeurs et des libraires, c'est ce qu'il faut montrer au mois de juin, surtout pas à la rentrée. Donc là, c'était un pari tiré à 10 000 exemplaires. Quand on tire un livre à 10 000 exemplaires, ce n'est pas qu'on espère en faire un produit, c'est qu'on espère sauver les meubles, dans le meilleur des cas. Donc ça, encore une fois, ça a prouvé une chose, à savoir la phrase que Gaston Gallimard voulait imprimer en lettres de néon au-dessus de son bureau, on ne sait jamais rien du sort d'un livre. Et j'ai été à la fois amusé et navré de constater dans la plupart des débats qui ont eu lieu et des polémiques qui ont eu lieu dès le mois de septembre, qui ont consisté à dire, bien entendu, ce livre a été fabriqué par rapport au succès. Comme toujours en France, on explique parfaitement le succès une fois qu'il est advenu, mais c'est impossible de l'expliquer avant. Dans la réception de ce livre, j'ai été frappé également par la qualité et aussi par la médiocrité de la réception critique. J'étais notamment assez, sidéré de certains articles d'historiens de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de Français, germanistes, spécialistes de la guerre, notamment un dont, dans l'instant, j'oublie le nom, mais ça vaut peut-être mieux finalement, ça évitera la polémique, qui avait publié dans le Figaro, j'espère qu'il n'est pas à cette table d'ailleurs, parce que bon, tant pis, c'est pas grave, peu importe, qui avait publié dans le Figaro un article, c'est pas vous, non, qui avait publié dans le Figaro, n'écrivez pas dans le Figaro, mais non, mais c'est bon, un article critique en escalité, bien entendu, qui consistait à dire il n'est pas question de prendre ce roman au sérieux, il faut l'accueillir avec un immense éclat de rire, car ce roman qui vous prend tous, lecteurs, pour des crétins, puisque vous avez cru que c'était un livre sérieux, ce roman est, je cite, une blague de potache cagneux. Alors, c'est flatteur pour les cagneux, vous me direz, parce qu'arriver à produire une telle œuvre quand on est en cagne, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais d'un autre côté, la manière dont ce critique, qui est quand même pas le dernier des historiens, au contraire, un des premiers, a voulu tourner en dérision un tel livre, m'a inquiété. M'a inquiété pour le débat intellectuel, pas seulement autour de ce livre, mais pour le débat intellectuel en France, parce que je trouvais que c'était un symptôme. Ce qui m'a frappé également, c'est que dans la réception critique, très peu d'observateurs ont noté qu'avec les bienveillantes, on assistait au début d'un phénomène historique, dans l'édition, mais dans la littérature tout court, à savoir que c'est la première fois qu'un auteur qui n'est ni un acteur de la Seconde Guerre mondiale, ni un témoin, ni surtout un contemporain de cette guerre, a osé mettre la Shoah en fiction. J'ai souvenir, il y a un an, donc bien avant l'apparition de ce livre, d'un débat, ou d'une conversation plutôt privée, avec François Nourricier, Bertrand Poirot-Delpech et Georges Samprin. Et Samprin avait dit à juste titre, le jour où quelqu'un qui n'a pas connu ces événements, ni de près ni de loin, qui est totalement étranger, qui osera introduire la fiction, donc d'une certaine manière le romanesque, dans la Shoah, ce jour-là, on aura franchi une étape. Et il appelait de ses voeux, bien entendu, un tel auteur. Mais il disait à l'époque, cet auteur, je ne le vois pas. Et pour cause, il n'existait pas. Du moins, il n'était pas visible. Or, maintenant, il est visible, et c'est Jonathan Little. Enfin, le troisième point sur lequel je voudrais juste attirer l'attention, c'est que, en lisant ce livre, qui, je dois le dire, dès l'été 2006, m'a absolument stupéfait, au point de cesser tout tour d'activité, de m'y consacrer, en relisant Caput, que De Noël a eu la bonne idée de rééditer dans le sillage des Bienveillantes, et la lecture en stéréo ou en parallèle de Malaparte et de Little est très intéressante, et il y aurait une étude de, à la fois d'histoire comparative et de littérature comparative, de l'être comparé, à faire entre le Malaparte et le Little. Bref, cette réflexion m'a mené à ceci, c'est que j'ai eu le sentiment, en lisant ce roman, que d'une certaine manière, il signait un certain échec des historiens. Je veux dire par là que tout ce dont parle Little, tout cela a déjà été écrit. Ça a été écrit par Raoul Hilberg, ça a été écrit par Christopher Browning, ça a été écrit par 5 ou 6 autres très grands historiens, je parle d'historiens, qui ont permis à Little de faire ce qu'il a fait. Ils l'ont tous écrit, et pourtant, la plupart des gens qui ont lu ce roman, Les Bienveillantes, ont eu le sentiment de découvrir quelque chose, alors qu'il n'y a stricto sensu aucune révélation, et il ne prétend à aucune révélation dans l'ordre historique. Je veux dire par là que les historiens du mal, pour dire les choses ainsi, rassemblant la Shoah et un certain nombre d'autres choses, les historiens du mal, à un moment donné, de leur enquête et de leur travail, ont tous buté sur le fait qu'il y a une limite dans ce qu'on peut exprimer par le biais de l'histoire. Il y a une limite, et cette limite est irréductible aux archives, aux documents, à la critique interne, à la critique externe des documents. À ce moment-là, ils se sont arrêtés. Et j'ai le sentiment que Little, justement, a osé prendre le relais, a transformé toute cette matière historique, plus ou moins brute, plus ou moins elle-même transformée, pour en faire de la littérature, pour en faire de la fiction. Et en faisant ça, il a réussi à toucher un public qui était déjà informé de tout ça, mais qui, pour une fois, a eu le sentiment de toucher du doigt le mal. Et ça, je dois dire que c'est quand même une réussite exceptionnelle. J'ai eu une discussion un jour avec lui sur l'absence de bibliographie à la fin de son livre. Je lui ai reproché. Il m'a dit, je sais, j'ai lu ce que vous avez écrit. Je lui ai dit, je ne trouve pas normal que vous n'ayez pas mis 10 pages à la fin pour dire ce que vous devez à tous les gens auxquels vous avez emprunté. C'est pas du vol, c'est pas du plagiat, il ne s'agit pas de ça. Et dans les interviews, il reconnaît parfaitement tout ce qu'il doit à Hilberg, à Browning, et à Jan Kershaw, et à quelques autres. Mais dans son livre, ça n'y est pas. Il m'a dit ceci, il m'a dit, j'estime que je n'ai pas à le faire, car, comme dit Blanchot, le corps d'un roman n'a pas à être contaminé par quelque chose d'extra-littéraire, en l'occurrence des sources historiques. Je dis oui, mais sans ces sources historiques, votre roman n'existe pas. Il me dit peut-être, mais je m'en fiche. C'est ce qui a limité un peu le débat. Mais en même temps, je comprends parfaitement son point de vue. Je lui dis, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une dette, au moins morale, vis-à-vis de tous ces gens? Il me dit oui. Écoutez, il me dit, l'éditeur américain m'a dit comme vous, il va créer un site internet sur lequel je mettrai toutes les sources. Je dis, mais en attendant, le lecteur français. Il dit, ben, le lecteur français, il fait avec ce qu'il a, le corps du texte. Et s'il ne veut pas me croire sur parole, tant pis. Voilà, ça c'est un petit peu terminé là. C'est ce que je voulais dire, juste pour... Je crois que...
Merci. Donc je remercie très chaleureusement tous ces intervenants. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de matière dans ces points de vue. Il faudrait prolonger cette conversation. Il faudrait en faire peut-être quelque chose comme un travail collectif. Avant de céder la parole à la salle pour... 2 ou 3 questions, pas plus, malheureusement, parce que Jonathan Little va arriver et je ne veux pas qu'il ait l'impression d'être un intrus ici. peut-être. Donc les gens rentrent plutôt que de rester à la porte. Oui, j'irai faire rentrer les gens, mais. Peut-être d'abord, s'il y a une réponse ou une intervention parmi les intervenants en réaction à ce qu'a dit l'un ou l'autre. Sophie Queret.
Peut-être juste un petit contrepoint, un petit peu plus critique. En tout cas, le sentiment que chacun en lisant ce livre, effectivement, c'est sa qualité littéraire et l'entraînement qu'on peut avoir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et peut-être pourra-t-il le dire lui-même, mais certainement Jonathan Littell était très conscient son habileté, tous les termes qui ont été employés ici, pastiche, collage, des mesures documentaires, il le sait, il le fait très bien et il en joue. Et il l'a dit dans une interview au Monde en disant « ce livre peut être lu contre lui-même ». Donc une fois qu'on a dit ça, et ben effectivement, on est assez malin pour désamorcer toutes les critiques. Et alors là, c'est peut-être ce qui vient d'être dit par Pierre Assouline, finalement, ça a sa dimension morale, c'est-à-dire que c'est une malgré tout ce qu'on a dit sur la fascination du mal, c'est plutôt une leçon de morale. C'est-à-dire que finalement, il fait passer tout ce qu'ont dit les historiens sur une série de crimes qu'on ne connaissait pas. Donc finalement, cette leçon de morale, elle existe aussi, me semble-t-il, dans ce livre.
Oui, Catherine.
Oui, moi je crois pas du tout que ce soit une leçon de morale, et je pense que d'autre part il a eu bien raison de pas mettre les sources historiques, c'est une œuvre littéraire et il a eu raison d'assumer cette œuvre comme telle et pas non plus comme une leçon de morale. Et je dirais pas non plus que ça marque l'échec des historiens, mais plutôt la réussite des historiens. S'il n'y avait pas eu les travaux d'historiens, il n'y aurait pas eu Littell.
Pour compléter ce qui vient d'être dit tout de suite, à savoir les liens entre l'histoire, je ressongeais un certain nombre de choses que Littell rend bien plus sensibles que ne l'ont fait les travaux d'historien. Mais s'il n'y avait pas eu ces travaux, je ne pense pas qu'il aurait pu le faire de la même manière. C'est par exemple ce que montrent les études très récentes sur le personnage de Hitler. Et on s'aperçoit que la fascination exercée par Hitler sur une large partie de la société allemande tient au fait qu'il n'est rien. Donc l'irréalité du personnage de Max Auer renvoie très fortement à celle de Hitler, qui précisément, parce qu'il était lui-même très peu incarné, tout en ayant une peur panique de sa propre corporalité, était devenu la surface de projection de toute une série de rêves, d'apocalypses, d'espoirs, etc. Toutes les figures littéraires qu'on retrouve dans le roman. La fascination du mal, et plus précisément la fascination de la destruction et des corps démembrés, c'est quelque chose que je retrouve dès le lendemain de la guerre de 14 dans les tableaux d'Otto Dix, ou bien dans les tableaux de Gross, qui ne sont pas seulement des tableaux d'énonciation de la guerre, mais aussi de fascination pour le démembrement. Enfin, le personnage de Max Auer, si irréel qu'il soit, le docteur qu'il est, l'intellectuel qu'il est, le subtil, quelqu'un qui est séduit par le nazisme, ce sont des choses que nous savons parfaitement et sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Donc de ce point de vue-là, je ne vois pas du tout ni de démenti de l'histoire, ni même de dévalorisation. Au contraire, une complémentarité entre les deux, et la grande force de Littell, c'est de rendre accessible à un public non historien ce que les historiens commencent de comprendre, mais qu'ils n'arrivent à exprimer qu'en termes historiques.
Oui, non, mais je n'ai pas parlé de démenti, mais de prolongement. Je dis qu'il les complète, il les prolonge. Oui. Mais la vérité qu'ils touchent, ils n'ont pas, enfin très peu d'entre eux, en tout cas, ont pu la faire toucher du doigt au lecteur. C'est en ça que ce qu'il apporte est exceptionnel et devrait être intégré finalement dans des données bibliographiques, si je puis dire, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est très rare pour un roman.
Avec une exception tout de même, c'est le livre qui n'est encore pas traduit en français, je crois, le dernier livre de Saul Friedlander, La Grande Somme sur l'extermination des Juifs. Et le livre de Friedlander, qui, à ma connaissance, n'a paru pour l'instant qu'en allemand, traduit à partir de l'anglais, est un livre dans lequel il y a justement l'entremêlement d'une écriture historique de type classique et de toute une série de témoignages individuels pour montrer que l'écriture historique, avec toutes ses qualités et toutes ses exigences, arrive très vite à ses limites et qu'il faut savoir la dépasser si on veut s'approcher un peu plus de ces questions-là.
Bien, je vous remercie. Une petite remarque très rapide, en prolongement de l'analyse de Francis Wolff, qui m'a beaucoup intéressé. Il me semble qu'il y a un moment où Littell met en abîme, en quelque sorte, ce que tu dis, c'est-à-dire sur l'échec de cette troisième voie par rapport à ce qu'il appelle par ailleurs l'approche fonctionnaliste de la Shoah. Il le thématise comme tel. C'est le moment où il tord le nez d'Hitler dans le bunker, là c'est un acte qu'il ajoute à l'histoire en ajoutant on en trouvera peut-être trace dans les archives soviétiques. Oui, oui. Alors, c'est à la fois, mais là on touche à quelque chose de très singulier. C'est à la fois du côté de Dostoïevski, évidemment, du côté des démons de Dostoïevski, mais moi ça me fait aussi penser à Lubitsch. C'est-à-dire une sorte de superposition des registres, de mélange des genres. Est-ce que la Shoah supporte le mélange des genres? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'en tenir à un seul genre, mais faire glisser un genre sous l'autre en permanence? Voilà aussi une expérience morale proposée au lecteur.
Ce qu'il y a de fascinant dans cette scène qui évidemment mêle brusquement du burlesque au tragique, bon, à la fin de Berlin, etc., les derniers jours, Hitler dans son bunker tremblant, machin. Ce qu'il y a, le caractère dérisoire du geste, si tu te souviens, la phrase d'après, je crois me souvenir, c'est quelque chose du genre « Aujourd'hui encore, je ne suis pas capable de m'expliquer pourquoi j'ai fait ça ». Le seul moment où le personnage dit une phrase de ce genre, c'est à propos de ce geste absolument dérisoire. Bon, qui lui aurait valu la mort, mais de toute façon, il était prêt à ce moment-là à mourir à chaque instant. Donc, il y a là quand même quelque chose. Tu as parlé de mise en abîme ou de mise à distance, ou de... Il y a quelque chose, en effet, comme un effet littéraire dont on peut à la fois saluer l'audace... ou, comment dirais-je, déplorer la gratuité, selon le point de vue où on se place.
Bien, nous avons le temps pour une question, avant que Little n'arrive. Et ensuite, il y aura sans doute des questions, si vous voulez, hein, après l'entretien qui va avoir lieu. Donc, je vous demande donc un peu de patience pour ceux qui veulent en poser. Mais quelqu'un veut-il poser une question ? Pour finir.
Oui, posez-la sur le micro.
Donc moi, je suis parti d'une anecdote grand public, donc j'ai pris un immense plaisir à ce roman qui comporte beaucoup d'histoires et de niveaux de jeu différents, pour voir en transparence, vous savez, les niveaux de jeu successifs sont très intéressants. Ma question, c'est, je croyais que la morale était un peu un sujet aujourd'hui, et je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que le fait que Bourreau s'exprime au jeu a une vertu morale, parce qu'on dit justement qu'est-ce que j'aurais fait à sa place si j'avais été à sa place dans certaines conditions. Ça me semble extrêmement une position morale, de réflexion morale pour le lecteur de dire qu'aurait fait à sa place.
Oui. Qui veut répondre à cette question ? On y a tous un peu répondu. Little lui-même, dans le dernier numéro du débat, y répond, dans le débat avec Pierre Nora. Et il y répond à travers la bipartition humain-inhumain. L'expérience morale consiste sans cesse à se demander si ce qu'on nomme l'inhumain, ce n'est pas tout simplement l'humain. Où passe la frontière ? Pour Little, il n'y en a pas, précisément. Bien, alors nous allons faire une toute petite pause et nous reviendrons pour parler de ce livre donc dans un quart d'heure, un petit quart d'heure.